et la famille d'une femme tuée par un immigré sans papier. M. Trump a réitéré ses appels à reprendre le canal de Panama et à s'emparer du Groenland, mais pas sa demande d'expulser les Palestiniens de Gaza. Il a parlé pendant 1h40, ce qui en fait le plus long discours présidentiel devant le Congrès.
Et pour ce débat, mes invités, nous avons de Bowie dans le Maryland, Fleury Kamga, opérateur économique et supporter de Donald Trump. Bonsoir, bienvenue.
Merci, bonsoir.
De Libreville au Gabon, nous rejoint Jean-Claude Zamba, analyste politique et économique. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Et nous avons également le professeur Emiliano Viano qui est au téléphone, professeur de droit à l'American University. Vous êtes également observateur politique. Bienvenue, professeur Viano.
Bonjour, c'est un plaisir de collaborer avec vous.
Nous, pour commencer ce débat, Fleury Kamga, vous avez suivi ce débat mardi soir avec nous. America is back, a déclaré le président américain. L'Amérique est de retour. Selon vous, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce par rapport à la scène internationale pour marquer une rupture avec les politiques de son prédécesseur, M. Kamga?
Oui, absolument. Il fallait mettre fin à la politique du président Biden parce que c'est une politique qui permettait simplement de détruire le tissu social. Que ce soit sur le plan international avec l'Ukraine, on voit un président qui n'était même pas intéressé à arrêter la guerre. Tout ce qu'il il ne faisait que mettre de l'énergie dans cette guerre. Mais sur le plan interne aux États-Unis, nous voyons un président qui est en train de donner encore de la force aux parents qui peuvent parler à leurs enfants. Il peut montrer, les parents peuvent montrer qu'ils connaissent leurs enfants mieux que les enseignants. Donc nous sommes dans une situation où on a un président qui est en train de rétablir ce qu'on appelle la famille. Et je suis très, très content.
Depuis le Libreville, vous avez suivi ce discours, M. Zamba. La bipolarisation de la politique américaine s'est fait sentir lors de ce discours et les réactions des élus démocrates. Le président devait-il faire un pas de plus vers ses adversaires démocrates sur certaines questions, telles que le financement du gouvernement fédéral qui nécessite un soutien bipartisan?
Je pense qu'il aurait pu faire un pas, effectivement. Mais M. Trump, comme on le connaît, est venu avec des directives, des objectifs bien précis. Il a même fait remarquer que le côté démocrate ne répondait pas à tout ce qu'il disait. Donc c'est quelque part, il ne voulait pas quelque part leur donner une certaine place. Mais je pense qu'au-delà de cela, il y a certains éléments de ce qu'il a dit qui vont dans le sens de ce que les démocrates croient. Je pense que les démocrates sont également pour qu'une Amérique plus forte, une Amérique plus présente sur la scène internationale et une Amérique qui soit à l'écoute et qui soit cette puissance non seulement économique mais militaire que tout le monde écoute et que tout le monde veut s'assurer de travailler avec.
Professeur Viano, qu'est-ce que vous avez pensé des principales lignes de force du président lors de ce discours? A-t-il réussi à affirmer sa vision pour ce mandat ou a-t-il laissé place aux doutes selon vous?
Je dirais que le discours de Trump était plus un discours de campagne, c'est-à-dire la même chose qu'il a utilisée pour être élu président des États-Unis. C'est une répétition de certains stéréotypes qui pensent pour être une attraction pour certains segments de la population. Et vraiment, si on pense qu'il y a des dangers très très profonds qui arrivent demain grâce à lui, c'est-à-dire par exemple l'imposition d'impôts sur les importations du Mexique, du Canada et d'autres pays. Une confrontation avec la Chine, même dans le sens du marché. La Chine, vraiment, veut naturellement continuer les exportations aux États-Unis, mais ils ont beaucoup plus de moyens pour le faire et aussi plus de contrôle sur son monnaie, c'est-à-dire qu'ils peuvent la manipuler pour gagner une bataille comme celle-ci. Enfin, il y a la brutalité, si on veut. Il a gelé brutalement l'aide militaire à l'Ukraine pour obliger à Zelensky de cesser le feu et de se soumettre à la décision de Trump en collaboration avec Poutine. Et ça présente maintenant un problème très grave pour l'Europe. L'Europe maintenant peu à peu a reçu le message. Et le message, c'est que c'est à vous de vous défendre, de décider, de financer, de souffrir. Nous n'aurons pas plus beaucoup d'argent pour vous.
Merci pour ce vue d'ensemble de ce que vous avez pensé de ce débat, professeur Viano. J'aimerais avoir votre avis, monsieur Kemga, sur la réponse démocrate, la sénatrice de Michigan, Elisa Slotkin, qui a prononcé la réponse démocrate après ce discours, a admis que, je cite, l'Amérique veut du changement, mais selon elle, il y a une manière responsable de faire ce changement sans oublier qui nous sommes, a-t-elle déclaré, en tant que pays et en tant que démocrate. A-t-elle raison, selon vous ?
C'est la même rhétorique. C'est la même rhétorique des démocrates. J'aurais aimé qu'elle commence sa réponse en marquant un point sur la réaction des démocrates pendant ce speech. Si les démocrates veulent être le parti de Al Green, bravo, nous les soutenons là-dedans. S'ils veulent être le parti qui ne peut pas se lever pour un jeune enfant qui a battu le cancer et qui est intronisé au Secret Service, mais nous sommes tellement contents. Ils veulent être un parti qui ne veut pas défendre le droit des femmes de participer à leur sport, à eux-mêmes, ben, bravo, nous les attendons aux élections. Mais la réalité, c'est que le président a trouvé du désordre. Si vous arrivez dans votre maison et vous trouvez du désordre, pour l'arranger, il faut changer radicalement les choses. Et c'est ce que le président Trump est en train de faire.
Monsieur Zamba, j'aimerais bien avoir votre avis sur la réponse démocrate et cette déclaration de Mme Slotkin qui a dit aux Américains que les politiques de Trump les feraient payer dans tous les aspects de leur vie.
Ben, je ne suis pas du tout d'accord. Et nous savons que d'abord, les États-Unis est un pays avec des institutions fortes et que le président Trump a été élu par les Américains. Donc quelque part, il y a beaucoup d'Américains qui ont décidé, la majorité a décidé que c'est Trump qu'on veut comme président. Donc de ce fait, M. Trump ne fait que remettre sur la table certains éléments de ce que ce peuple, cette population, qui a décidé de le prendre comme le prochain président, pour venir arranger. Les États-Unis sous Trump restera toujours un pays démocratique, que ce soit au niveau de l'Assemblée, le Parlement, les décisions démocratique. Je pense que, comme a dit mon collègue, il va essayer d'arranger certaines choses. Donc, comme dans tout pays du monde, rien n'est parfait, mais il y a certaines situations dans lesquelles il y a du gaspillage et il faut ramener une certaine sérénité au niveau des comptes publics, au niveau de comment l'argent du citoyen américain est dépensé. Et je pense que cela, c'est quelque chose que les Américains se reconnaissent. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui est sur la table qui inquiète beaucoup de parents et beaucoup de personnes qui soit ont un travail ou sont à la recherche d'un travail.
De manière générale, que pensez-vous de l'impact de ce discours? Tout à l'heure, le professeur Viano semblait dire que ce discours ressemblait plutôt à un discours de campagne. Selon vous, Trump a réussi à convaincre sa base? A-t-il offert des gages à son opposition, selon vous, M. Zamba?
Je pense que ce qui s'est passé, c'est que M. Trump, c'était la première fois qu'il pouvait s'adresser aux Américains, à tous ces Américains, à toutes ces personnes qui l'ont élu. Donc, effectivement, il y avait comme une connotation de discours de campagne. Mais c'était pour leur dire, je ne vous ai pas oublié, parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? Donc, quand les gens font campagne, ils disent un truc, et une fois qu'ils prennent le pouvoir, c'est autre chose. Donc, vouloir vraiment réaffirmer à sa base, mais également au niveau des parents.
Votre avis sur la réponse démocrate, vous avez suivi le discours de la sénatrice de Michigan, Madame Slotkin?
Oui, je pense que on peut dire que les démocrates doivent travailler beaucoup plus pour avoir une politique plus claire et qui se relationne mieux avec le citoyen ordinaire. Je crois qu'il n'y a pas encore cette réalisation de ce qui est nécessaire pour se préparer pour les prochaines élections. On se découvrirait et les prochaines élections du président, il y aura 4 ans d'aujourd'hui. Je crois que non, il n'a pas été très effectif. Il n'a vraiment pas démontré qu'ils ont compris que ce qui s'est passé le novembre passé avec l'élection, qu'il doit modifier son message et convaincre l'Américain ordinaire qu'ils sont le meilleur parti les meilleurs politiciens qui peuvent aider pour prospérer financièrement, pour la protection des droits, droits d'expression, droits de vivre, et plus de tout, de comprendre quelles sont les variables très importantes, essentielles pour une économie qui est forte, qui est prospère, qui assure tout le monde une façon de vivre qui est très digne. Dans ce sens, je crois que je dois travailler beaucoup. Il n'était pas vraiment une réponse qu'on espérait et qui aurait dû être beaucoup plus forte et plus détaillée pour l'américaine ordinaire.
Merci pour ces précisions. Et que retenez-vous des premières décisions du président depuis son entrée en fonction? C'est la question que nous avons adressée à nos téléspectateurs pour ce débat. Et je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Lasga Sek de Dakar au Sénégal nous dit que cette administration républicaine a décidé de réduire l'influence et l'aura des États-Unis dans le monde pour combler le gap budgétaire. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, lui, il pense que dans tout son discours, Donald Trump nous fait comprendre que les intérêts des États-Unis demeurent sa priorité, que les États-Unis vont aider qui ils veulent et que les dépenses sans intérêt doivent être évitées. John Lorougnon d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dit que Trump a été toujours très pragmatique dans ses prises de décision, car il a dit qu'il viendrait au pouvoir pour les Américains et là où il y a un intérêt national, il va s'y impliquer à fond pour le peuple. Merci pour vos différents commentaires. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat et les commentaires de mes invités. Washington Forum sur VOA Afrique. Avec vous dans Washington Forum. Vous êtes sur VOA Afrique avec mes invités. Nous revenons sur les grandes lignes de l'allocution du président américain devant une session conjointe du Congrès entre les tarifs douaniers, l'Ukraine, Gaza ou encore la réduction des dépenses publiques. Plusieurs sujets ont été passés en revue mardi soir par le président. Et pour cette discussion, je suis ici en direct avec mes invités via Skype. Nous avons Fleury Kamga, opérateur économique ici dans le Maryland, des supporters de Trump. Nous avons le professeur Emiliano Viano qui est au téléphone, professeur de droit à l'American University et également observateur politique et de Libreville au Gabon, Jacques-Claude Zamba, analyste politique et économique. Monsieur Kamga, mon administration récupérera le canal de Panama et nous avons déjà commencé à le faire, c'est ce qu'a déclaré le président américain devant le Congrès, déclaration à laquelle les autorités du Panama n'ont pas tardé à réagir. Que dites-vous à ceux qui voient en cette déclaration une menace pour la stabilité internationale?
Menace pour la stabilité internationale, c'est possible. Mais on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Ce canal a été remis, pas pour la Chine, mais pour protéger les États-Unis. La proximité des États-Unis, de la Chine aux États-Unis, c'est un danger pour l'Amérique. Et il est important que le président Trump redonne le nom du canal américain à ce canal.
Et le président n'a pas que parlé du canal de Panama, il a également mentionné le Groenland. Monsieur Zamba, j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez de ces ambitions d'annexion du canal de Panama et du Groenland par le président américain.
Le président Trump ne fait que protéger les intérêts des États-Unis. Le canal du Panama, nous savons, a été construit, financé par les États-Unis. Et les bateaux américains pour y passer paient certains frais. Et aujourd'hui, le fait de savoir que la Chine va commencer à le contrôler est une menace pour les intérêts américains. Donc c'est dans ce sens que M. Trump veut s'assurer que la dominance américaine donc dans l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, soit toujours maintenue. Le Groenland, je pense que c'est la même chose. Il voit qu'il y a des intérêts au niveau du Groenland. Maintenant, la façon dont cela se fera au niveau du Groenland, bon, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais je pense que c'est dans l'intérêt de sauvegarder d'abord les intérêts américains. Maintenant, oui, une politique expansionniste, est-ce que ça se fera comme a fait la Russie en Ukraine? Est-ce que je ne pense pas que ça se fera de cette façon. Ça se fera de façon légale et sûrement dans ces conventions qui ont été mises en place, un calendrier qui permettra à M. Trump de prendre possession de ces deux zones.
Mais peut-on se projeter un tout petit peu sur ce que pourraient être les conséquences diplomatiques et militaires d'une telle approche, ou s'agit-il plutôt, selon vous, d'une stratégie de négociation, M. Zamba?
Stratégie de négociation, c'est comme la même chose quand M. Trump dit qu'il va mettre 25% de taxes pour le Canada et le Mexique et 10% additionnel pour la Chine. Comme a dit son secrétaire au commerce, M. Howard Lutnick, ça commence en fait à amener les gens à la table de négociation pour négocier des meilleurs termes. Je pense que ça se fera par une politique de négociation, sincèrement.
Professeur Viano, votre avis, vous avez suivi cette déclaration du président américain sur le canal de Panama et le Groenland?
Oui, je pense que je suis un peu étonné sur le fait de dire que c'est une bonne idée. Je crois que le problème, le danger le plus grand, c'est de donner l'impression au niveau mondial que la nation plus forte peut imposer sa volonté, peut même prendre votre territoire, imposer son propriétaire, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas l'importance du droit, des accords internationaux. Le fait que le canal, par exemple, travaille très bien, il n'y a pas de problème de réalité, essentiellement un power grab, comme se dit, on peut dire en anglais, un désir d'affirmer son pouvoir, de prendre ce qu'on veut. Si on veut, allez-y, vous devez le prendre. Il me semble très bien, particulièrement parce que c'est un point très important pour le commerce avec l'Asie, particulièrement la Chine, mais aussi il y a avec d'autres pays de l'Amérique latine qui ont besoin d'une façon de vendre nos ports, nos marchés, avec une possibilité de succès pour eux. Si pas ce que Trump vient de faire, il va être beaucoup plus cher, plus difficile, moins attractif pour bien des pays, particulièrement de l'Amérique latine. Ça, c'est important aussi, en prenant en compte le problème de l'immigration de cette région. C'est dans notre intérêt de faciliter le développement économique, industriel, d'éducation, de médecine, de assistance pour tout le monde de l'Amérique latine, parce qu'il a beaucoup de potentiel, il a beaucoup de minéral, de minéraux, de forêt, de biens très importants pour nous aussi, et c'est une bonne chose. Si on veut contrôler l'immigration de cette région.
Et pour revenir, vous évoquez à l'instant, vous avez fait mention de l'économie, justement, on évoquait plutôt les tarifs douaniers imposés au Canada, au Mexique et à la Chine. Le président a lui-même déclaré que l'économie américaine serait quelque peu perturbée par les droits de douane, mais il a vanté les mérites de ces derniers. Monsieur Kanga, j'aimerais avoir votre avis. Que dites-vous face aux critiques sur les guerres commerciales que ces droits de douane pourraient provoquer, Monsieur Kanga?
À mon sens, moi, je pense que c'est une arme que beaucoup de présidents, même en Afrique, devraient déjà commencer à utiliser.
Vous parlez du tarif?
Beaucoup, les tarifs. Ils ne l'ont jamais utilisé. Et vous comprenez bien que les Américains sont défavorisés lorsqu'il est question des tarifs douaniers. Il est important que le président américain vienne remettre de l'ordre là-dessus et créer une parité tarifaire. Il ne dit pas qu'il va vous taxer plus, mais si vous nous taxez 50%, c'est ce qu'on va appliquer. Je ne sais pas ce qu'il y a de monstrueux là-dedans. Je pense que c'est quelque chose d'assez normal. Et ça va booster l'économie américaine. Parce qu'au début, comme le président a dit, comme toute politique économique, dès qu'on la met sur place, il y aura quelques perturbations. Mais à la longue, ce sera quelque chose de très positif pour l'Amérique.
Monsieur Zamba, historiquement, les guerres commerciales entraînent souvent des conséquences sur l'économie mondiale, selon des économistes. Et je disais plutôt que les démocrates ont mis en garde contre l'inflation ici aux États-Unis. Peut-on anticiper des effets néfastes pour les États-Unis et leurs partenaires commerciaux avec ces nouveaux tarifs douaniers ?
Oui, il y aura des secousses, comme l'a dit M. Trump. Mais à signaler, l'inflation américaine le mois dernier était de 3%, alors qu'en 2022, elle était à 9%. Donc M. Trump a une marge sur laquelle il peut travailler, sachant que ça va monter un peu, mais à la longue, ça va s'aligner. C'est clair que les États-Unis étant un pays qui est assez avancé sur le plan technologique, sur le plan infrastructure, devra sûrement faire certaines adaptations, mais cela permettra à un moment de également protéger le marché national au niveau de certains producteurs dont l'Amérique fait venir souvent des produits de l'extérieur. Je pense que M. Trump est quelqu'un de très pratique. Et avant de prendre certaines décisions, surtout des grandes, il s'assure de s'assurer d'avoir la bonne information. Les États-Unis aujourd'hui ne peuvent pas se lever, parler du Panama, parler du Groenland, parler de tout ce dont ils ont parlé sans avoir des données derrière qui leur donnent assez d'informations pour pouvoir faire avancer certains objectifs qu'ils ont.
Je reste avec vous pour dire un mot sur l'Ukraine. Le président a affirmé avoir reçu une lettre importante du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui serait prêt à négocier avec la Russie pour la fin de la guerre. Est-ce qu'on peut parler de dégel des tensions entre le président américain et son homologue ukrainien par rapport à la discussion qu'on a vue dans la Maison Blanche le vendredi dernier ? Monsieur Zamba ?
Oui, non, absolument, absolument. Et je suis content de voir la flexibilité de M. Zelensky. Il n'est pas resté sur ses coudées. Il a compris qu'il était dans l'intérêt de son pays d'aller aux négociations et sous le leadership des États-Unis. Sinon, comme a dit le président Trump, vous n'aurez plus aucun pays parce que nous, on ne va rien faire, on va se retirer. L'Europe peut faire quelque chose, mais elle ne pourra rien faire devant la Russie. Et je pense que ce dégel, c'est une façon de M. Zelensky de dire « Oui, je suis venu, c'est vrai que je parlais pendant que vous parliez, je n'étais pas d'accord dans certaines choses, mais je suis sous pression, mais excusez-moi, je pense que j'ai compris ma leçon et maintenant j'aimerais faire exactement ce que vous demandez de faire. »
Mais avec le réchauffement des relations entre la Russie et les États-Unis, voyez-vous aujourd'hui les États-Unis répondre à cette demande de soutien sécuritaire de l'Ukraine face à la Russie ?
Je pense que la question sécuritaire demeure sur la... Zelensky continue à vouloir entrer dans l'OTAN. Et je pense que M. Trump connaît assez bien ce dossier pour savoir que ce qui fâche, c'est donc que l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. Il va sûrement donner certaines garanties sécuritaires, mais ne signera pas sur l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Et je pense que c'est jusque là où les choses iront. On peut garantir une certaine sécurité, mais tout en gardant les accords de Minsk comme le disait le président Vladimir Poutine, c'est l'OTAN qui ne fait que s'expandre alors que les accords de Minsk avaient mis certaines barrières à certains niveaux.
Je vous remercie Jean-Claude Zamba, vous qui nous avez rejoint depuis Libreville au Gabon, pour ce débat qui est revenu sur l'allocution du président américain devant une session conjointe du Congrès, c'était le mardi dernier. Merci à vous également, Monsieur Fleury Kamga, pour votre participation à ce débat. Et à vous, professeur Viano, merci beaucoup pour votre intervention. Washington Forum sur VO Afrique, le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h30 en temps universel. Et merci à vous qui nous suivez à travers nos télévisions partout sur le continent africain à travers les réseaux sociaux de VOA Afrique. Je remercie l'équipe technique et la rédaction pour cette émission. Et à vous, je vous dis à la prochaine et vous souhaite une très bonne soirée en compagnie des programmes de VOA Afrique.